Donc Philippiens chapitre 3, versets 1 à 14. Il dit au verset 1, « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu quant à la loi pharisien, quant au zèle persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, c'est-à-dire celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Courir, un peu l'objectif ce matin. On se souvient que Paul est en prison. On a vu déjà par rapport aux d'autres textes qu'il montre un amour particulièrement extraordinaire, un bon témoignage aussi, et il est dans le combat et il accepte ce combat dans toutes les circonstances. On avait vu aussi que Jésus est un modèle par excellence pour nous, mais que nous-mêmes, nous devons devenir des modèles. Et dans ce modèle, on pourrait dire aussi apprendre à courir la bonne course, parce qu'il y a courir et courir, on va voir. Et Paul d'abord commence par appeler à se réjouir. Alors, si on se souvient, Paul, il est où ?
Prison.
En prison. Vous, vous êtes où ? Dans l'église. Donc, il nous appelle à nous réjouir. Si lui qui était en prison appelle à se réjouir, combien nous devrions nous réjouir ? Nous réjouir malgré peut-être les difficultés des fois, malgré les faux prophètes, malgré tout ce qui peut arriver dans notre vie. Si Paul, lui, se réjouissait en prison, je ne vois pas pourquoi nous ne pouvons pas nous réjouir dans nos petites situations de vie. Mais s'il se réjouit, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui un peu, c'est parce qu'il se focalise sur quelque chose, c'est la ligne d'arrivée, comme un coureur. Mais on va en reparler. Donc, courons la bonne course. Et on va commencer par parler de cette fausse course, on pourrait dire, que certains courent et que lui-même, Paul, courait à un moment. Il dit, prenez garde à ceux qui courent une mauvaise course, versets 1 à 2. Il alerte, en fait, contre les faux docteurs, contre ceux qui ne font pas ce que Dieu demande. Alors, dans le contexte des Philippiens, c'était les judaïsants, c'est les juifs qui avaient certains concepts et qui étaient encore sous la loi. Et ces juifs étaient tout le temps en train de harceler Paul parce qu'ils voulaient vivre sous la chair, sous la loi encore. Et donc, ils empêtaient Paul au maximum. Ils voulaient vivre sous la loi, ils refusaient la grâce, mais ils pensaient qu'il fallait être circoncis, je vais expliquer ça tout à l'heure, pour pouvoir être sauvé, en fait. Il faut être juif pour être sauvé. Et évidemment, la Bible ne dit pas du tout cela. Et il va parler d'eux, il parle de trois groupes, mais c'est le même groupe, mais il y a peut-être différentes facettes qu'il exprime là. C'est d'abord, il parle de chien. Vous avez déjà traité quelqu'un de chien ? Je pense pas, Donc c'est assez fort. Mais dans son idée, c'est pas d'insulter quelqu'un, c'est de parler plutôt de l'impureté de ces personnes-là. Parce que en Orient, un chien, c'était un animal qui était impur. Et donc, nous, aujourd'hui, on a nos chiens à la maison, mais faites pas ça en Orient, parce qu'ils vont dire, oula, quelque chose de pas bon. Et donc, l'idée, quelque part, c'est en les traitant de chiens, c'est de dire que c'est des hommes qui ont des mœurs dissolues, qui ont vraiment pas une bonne morale, on va dire. Et en même temps, il y a une forme d'ironie de la part de l'apôtre Paul, parce que généralement, c'est les circoncis qui traitent les incirconcis de chiens. En fait, ils leur envoient la balle, quelque part. Les juifs, généralement, traitent les païens de chiens parce qu'ils ne sont pas circoncis. Maintenant, Paul leur dit, mais vous êtes aussi des chiens, quelque part. Parce que vous vivez de façon immorale et impure. Puis, il les traite de mauvais ouvriers. Il est sympa, quand même, l'apôtre Paul. Là, il dit la vérité, en fait. De mauvais ouvriers, c'est-à-dire qui désigne un peu leur mauvaise conduite, Ce sont des faux croyants qui, à l'époque, s'infiltraient dans l'Église avec de faux enseignements, avec de fausses doctrines. Est-ce que c'est encore valable aujourd'hui ? De plus en plus, d'ailleurs. C'est même plus, ils n'ont même pas besoin de s'infiltrer. Maintenant, on les accepte comme ils sont. Voilà, c'est sur Internet, c'est partout. Mais ça peut arriver aussi dans notre Église. Et à l'époque, ça existait déjà, que ces gens s'infiltrent tout simplement dans l'Église. Et comme il dit, ils travaillent pour eux-mêmes. Ils travaillent pour leur argent, généralement, pour leur gloire. Mais quelque part, ils travaillent mal. Et surtout, c'est une mauvaise conduite, quelque part, d'agir de cette manière-là. Et puis le troisième groupe, ou enfin c'est toujours le même groupe, mais il les traite de faux circoncis. Alors là, dites ça à un juif, tu n'es pas un vrai circoncis. Pour un juif, c'est la folie. Mais c'est vrai, quelque part, parce qu'en disant cela, ils désignent leur mauvais enseignement, puisque eux veulent rester sous la loi. Eux, ils croient dans la justification de la loi. C'est quoi être justifié ? Être déclaré juste, c'est devant Dieu, je rentre dans le tribunal, je suis accusé de mon péché et Dieu a raison, et normalement il y a un jugement et je me devrais me faire mourir en fait à cause de cela. Mais Jésus rentre dans ce tribunal, dit je prends la place d'Emmanuel, et si j'accepte, je peux sortir de ce tribunal tout simplement, et je suis déclaré juste, ou on dit aussi être justifié. Mais pour eux, ce n'était pas comme ça que ça se passait. C'était celui qui respectait la loi à la lettre qui pouvait être justifié. Mais qui peut respecter toute la loi ? Dans Galates, on voit bien que personne ne peut absolument respecter toute la loi. Il n'y a que Jésus qui l'a accompli. Donc on ne peut pas être justifié par la loi. Mais eux pensaient que et la circoncision et le fait de suivre ces lois permettaient le salut. Mais là, encore une fois, l'apôtre Paul fait un jeu de mots, parce que quand il dit les faux circoncis, ce n'est pas le mot circoncis habituel, il est en train de parler de mutilation. Il dit les mutilés, là. Ceux qui se croient être des circoncis sont quelque part des mutilés, dans le sens où ils agissent un peu comme les païens, quelque part, dans leur rite, etc. Donc, il se moque vraiment d'eux, et il les reprend, surtout. Et il a raison, quelque part, parce qu'ils étaient en train de tromper, tout simplement, l'Église, à ce moment-là. Donc, des chiens, des mauvais ouvriers, des faux circoncis, voilà. Ces gens qui peuvent entrer des fois dans l'Église. Alors aujourd'hui, ce n'est plus vraiment des judaïsants qui vont entrer dans l'Église, mais il y a d'autres formes de doctrine qui existent et qui pénètrent tout simplement dans l'Église. Et puis, bon, Paul peut-être les accuse, mais à un moment, il va se regarder lui aussi. C'est ça que j'aime bien chez lui, il n'accuse pas que les autres. Et il montre que lui-même, pendant un temps, il a couru une mauvaise course, on pourrait dire. On connaît tous qu'il s'appelait Saul avant, et qu'il persécutait les chrétiens, et fait un constat, en fait, de sa propre vie. Et il dit, lui-même, un peu comme ces juifs, pourrait mettre confiance dans la chair, ou plutôt dans sa religiosité, puisque lui a été parfait dans ce domaine-là. Il dit, il aurait pu avoir l'orgueil de la race, c'est-à-dire que lui était circoncis, il était israélite, il était hébreu, il faisait partie du peuple élu, et là, il pouvait dire, écoutez, les gars, vous n'avez pas plus que moi. Donc je pourrais être fier de cela. Il aurait pu être fier aussi de sa religiosité, puisqu'il dit il est pharisien, il obéissait strictement à la loi, peut-être plus que beaucoup d'autres, et aux traditions, et donc il y a de quoi s'enorgueillir quelque part. Il dit aussi il avait cet orgueil du zèle pour Dieu, puisque Paul, dès qu'on parlait contre la loi, il persécutait, il mettait à mort, etc. D'ailleurs, c'est en allant mettre à mort des chrétiens à Damas qu'il sera arrêté sur ce chemin et qu'il va rencontrer Jésus-Christ. Mais il dit, il était fanatique et il était irréprochable par rapport à la loi. C'était le religieux par excellence. Qui peut prétendre à ça aujourd'hui ? Mais il fait une analyse de cette religiosité, puis une synthèse. Mais il dit, tout ça, tout cet orgueil que j'avais autrefois, en fait, c'est rien du tout. Mais il faut connaître Christ pour le comprendre. C'était une perte, comme il dit. Et le mot parle d'un dommage, c'est quelque chose d'assez violent dans l'expression. Il dit que c'est vraiment quelque chose qui ne valait absolument rien. Et beaucoup de gens dans leur religion font tous les efforts pour se sauver par eux-mêmes jusqu'au jour où ils rencontrent Christ et se rendent compte finalement que ça ne servait à rien. Ça ne servait à rien d'aller à Lourdes, ça ne servait à rien de se flageoler ou je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire comme bêtise des fois. Mais lui a compris que c'était une réelle perte. C'est quand même, il faut imaginer qu'il dit ça alors qu'il a vécu pendant un temps. Avec tout cela, comme disant « je sers Dieu ». Il a remarqué que ça ne servait à rien. Il dit « c'est de la boue aussi ». Le mot parle d'excréments d'animaux, quelque chose de rébutant, quelque chose qu'on n'aime pas du tout, un vrai dégoût. Donc, quand il regarde dans son passé et sa vie religieuse, il est complètement dégoûté de ce qu'il a fait autrefois. Est-ce qu'on est comme ça aussi par rapport à notre passé ? Ou alors on se dit, bon, j'étais pas si mal que ça autrefois, hein. Jamais tué, jamais volé peut-être, mais est-ce qu'on regarde notre vie passée avec un réel dégoût parce qu'aujourd'hui on connaît Jésus-Christ, hein. Pas à ce point-là, parce que nous on n'a pas tué les gens, évidemment, mais quand même, hein, il y a un passé, il y a un présent. Donc il parle de cette religion et de ce légalisme qui n'était pas en fait ce que Dieu demandait. Et pour lui, je pense qu'inconsciemment, il disait « j'obéissais au diable ». Et celui qui est religieux, celui qui vient juste pour venir le dimanche, qui suit Jésus juste pour le suivre, ben c'est pas forcément comme ça que Dieu lui demande de courir et de le suivre. Le diable aime bien la religion. Il est content quand on est religieux, qu'on fait les choses juste parce qu'il faut les faire, et pas pour suivre quelqu'un comme Jésus-Christ. Notre religiosité n'a aucune valeur, nous dit l'apôtre Paul. Et vous savez, l'enfer est plein de religieux. Plein de religieux. Ils ne sont pas forcément sauvés parce qu'ils sont religieux, légalistes, et parce qu'ils ne font pas ce que le Seigneur demande, tout simplement. C'est triste de se dire ça, hein, d'avoir passé une vie à vouloir être un religieux et finalement se retrouver loin de Dieu. Mais bon, ils ont la Bible, ils la lisent comme nous, hein, à eux aussi de réfléchir. Mais le chrétien aussi peut devenir un petit peu religieux. Pas autant que ce qu'on a vu avec Paul, mais on est sauvé, mais après, voilà, tranquille, je suis sauvé. Ouais, c'est bon. Et puis je vis ma vie tranquillement. Hein. Je ne me consacre pas au Seigneur, parce que normalement, on est censé se consacrer au Seigneur. Vivre cette vie de sanctification, de transformation. Je ne vais pas servir parce que je suis paresseux, ou parce que je dis que je ne suis pas capable, ou je ne sais pas quelle excuse on peut bien avoir. Et quelque part, je viens dimanche après dimanche, je fais ma petite prière, je rentre à la maison, j'ai une bonne conscience, tout va bien. Mais c'est aussi une forme de religiosité. Être un chrétien, c'est quelqu'un qui est sauvé, oui, mais qui va maintenant se mettre au travail, on l'avait vu la dernière fois, qui se consacre au Seigneur. Et il y a un effort à faire. Dans ma relation avec Dieu, dans la lecture de la parole, dans la prière, dans ma relation avec les frères et les sœurs, dans mon service, un chrétien, c'est quelqu'un qui est actif. Mais alors, ne condamnons pas forcément les religieux, mais parce que nous-mêmes, des fois, on peut devenir un petit peu religieux. Vous savez, tous les dimanches, après dimanche, hein, ça devient un peu une routine. C'est pour ça que j'essaie un peu de changer les... Que ce soit pas tout le temps tout pareil les dimanches, ça serait bien. On fera jamais la fête à ce point-là, mais quand même. Après, la routine, ça dépend de moi aussi. Si je viens en me disant, ouais, je sais ce qui va se passer, il va y avoir le chant, il va y avoir les offrandes, il va y avoir les annonces, il va y avoir le message, et puis je rentre à la maison. Vous pensez comme ça, le culte ? Non. Si on vient avec le cœur plein de joie, comme il dit, réjouissez-vous, alors on vient avec quelque chose, parce qu'on ne veut pas être religieux, on vient avec notre vie consacrée, on vient avec notre joie, peut-être avec un chant, un verset, mais on a envie que le culte soit vivant, même quand on n'est pas nombreux, ça peut devenir vivant. Donc voilà un peu le constat que fait Paul de ce super religieux qu'il était autrefois, finalement c'est de la boue, c'est absolument rien du tout. Pour aujourd'hui, s'il fallait un peu tout placer aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se croient chrétiens. Moi, j'appelle ça des chrétiens du dimanche. Et comme on l'a dit, on vient à l'église simplement pour avoir une bonne conscience, puis on rentre à la maison et on croit que Dieu est d'accord avec ça. C'est pas ça, être chrétien. Hein. On a vu ce que c'est. Certains vivent dans le légalisme, c'est-à-dire qu'ils manquent beaucoup plus que ce que Dieu demande. Hein. On parle un peu de ça le vendredi soir. Et quelqu'un a donné une définition du légalisme. Il dit... Et légalise toute prétention de nous réconcilier avec Dieu, de nous sauver par nous-mêmes, par nos propres efforts, en cherchant à obéir à la loi de Dieu, en dehors de la foi en Jésus-Christ et de son œuvre parfaite, en dehors de l'imputation gratuite de sa justice aux croyants. Il dit encore, et légalise toute adjonction de tradition humaine ou de commandement humain aux exigences contraignantes de la loi de Dieu. On l'a vu vendredi, on peut se créer nos propres commandements. Comment s'habiller ? Hein, parce que dans des églises, il faut s'habiller d'une certaine manière. Comment vivre la foi ? Et des fois, on exagère un petit peu ce que Dieu demande. Hein. Si vous n'avez pas lu votre Bible un matin, Dieu ne va pas vous tomber dessus. Hein. C'est dommage pour vous. Mais on peut devenir légaliste en se disant, si je n'ai pas lu la Bible, alors tout plein de malheurs va m'arriver dans ma vie aujourd'hui. C'est complètement faux. Pour savoir ce que Dieu veut pour moi, qu'est-ce que je dois faire ? Et voilà, simplement. Mais pas juste lire la Bible... dans Philippiens, mais lire la Bible, toute la Bible, parce que Dieu veut quelque chose en Exode, il veut quelque chose en Malachie, il veut quelque chose en Apocalypse, il veut quelque chose partout pour nous. Et si j'ai qu'une partie de la Bible dans mon cœur, quelque part, déjà on a du mal à la retenir, hein, et bien j'aurai qu'une partie en fait de ce que je sais que Dieu veut pour moi. Et donc je vais tâtonner. Et quand je suis à la croisée des chemins, ben des fois je ne sais pas quoi faire. Tout simplement. Vous pouvez toujours me téléphoner, éventuellement. On peut prier avec vous. Hein. Mais voilà, plus je lis la Bible, plus je vais connaître Dieu et plus je vais me réjouir plus je vais avoir confiance et je vais pouvoir courir tranquillement. D'autres essaient de se sauver par eux-mêmes. Hein. Là, j'ai une petite anecdote concernant la noyade. Hein. C'était un jour un surveillant de plage qui vit un jour un homme qui se noyait. Il s'est avancé vers les vagues, mais ne s'est pas précipité pour le secourir. Les gens se sont rassemblés sur la plage et se sont mis à hurler, à crier contre le surveillant de plage pour qu'il aille secourir l'homme qui était en difficulté. Normal. Le surveillant s'est avancé un peu plus dans l'eau, gardant toujours un œil sur l'homme, mais ni les cris ni les hurlements des spectateurs ne le faisaient se hâter. On peut se poser la question, pourquoi il agit comme ça? Ce n'est que lorsque l'homme semblait couler, pour la dernière fois, que le surveillant se mit à nager vigoureusement et le saisit pour le ramener vers la plage. Après avoir craché de l'eau et toussé, l'homme reprit lentement conscience. Mais plutôt que de l'accueillir comme un héros, la foule était en colère contre le surveillant de plage. On lui disait « Vous êtes un lâche, vous saviez qu'il se noyait. Pourquoi ne vous êtes-vous pas précipité plus tôt ?» Avec patience, le surveillant s'est mis à leur expliquer « Voyez bien qu'il est plus lourd et plus grand que moi. Si je m'étais précipité plus tôt, il se serait débattu si violemment que nous aurions certainement coulé tous les deux. » Tant qu'il essayait de se sauver lui-même, je ne pouvais pas le sauver. Mais quand il n'a plus eu de force et qu'il a cessé de se débattre, alors j'ai pu aller le sauver. Et c'est exactement la même chose pour ceux qui essaient de se sauver par eux-mêmes, avec leur propre force. Et je pense que pour chacun d'entre nous, dans notre témoignage, on a essayé de le faire à un moment, hein, parce qu'on cherchait Dieu d'une manière ou d'une autre, dans une religion, dans une philosophie, mais à un moment, on n'avait plus de force. Et c'est à ce moment-là seulement que Christ pouvait nous saisir. Donc, ça ne sert à rien de se sauver par soi-même, ça ne sert à rien de faire des œuvres. On ne peut pas se sauver par soi-même. On n'a pas la force ni la capacité. Mais par contre, Jésus-Christ, lui, veut nous sauver. Et il suffit juste de saisir la main. Mais on a besoin d'être des fois au plus profond du gouffre pour enfin saisir la main. C'est bien triste. C'est encore valable après la vie chrétienne, pas pour le salut, mais dans le sens où des fois, dans l'épreuve, dans la difficulté, j'ai les forces, moi. Je vais traverser l'épreuve tout seul, et puis j'ai besoin de personne. Et puis au bout de 10 jours, complètement écroulé. Et c'est là où on se rend compte qu'on a besoin aussi du Seigneur, et pourquoi pas aussi des frères et des sœurs. Et puis aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce qu'on est vraiment né de nouveau? Est-ce qu'on est réellement avec Dieu? Ou est-ce que vous en êtes réellement? Ça, c'est dans votre cœur. Est-ce que vous avez déjà accepté de vous repentir? Est-ce que vous avez accepté qu'à cause de mon péché, je suis condamné? Est-ce que j'ai accepté que j'irai loin de Christ pour l'éternité si je n'ai pas fait ça dans mon cœur? Mais le Seigneur propose de se repentir et de demander pardon pour mon péché. Et de l'accepter tout simplement comme mon sauveur. Je peux continuer à me débattre? Vous n'y arriverez jamais, ça ne sert à rien. Il faut à un moment s'arrêter, demander pardon à Dieu pour notre péché. Et lui, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous saisir dans sa grâce. Donc Paul dit de prendre garde dans cette première partie parce qu'il existe de fausses manières de courir et d'obtenir le salut. Et aujourd'hui, il y en a de plus en plus, de mauvaises manières de courir. Mais il faut connaître la mauvaise manière de courir pour pouvoir courir correctement. Parce que des fois, il faut quand même un vis-à-vis quelque part, une comparaison. Puis il dit courir la véritable course. Paul va définir le vrai coureur. Il dit les circoncis, c'est nous les chrétiens. Il dit ça aux Juifs, qui sont eux les circoncis par la chair, mais il dit c'est nous les vrais circoncis. Alors la circoncision, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais c'est un rite initial qui permettait en fait d'entrer en possession des privilèges de la famille de Dieu, et c'était représenté à l'époque par Abraham, et puis par les descendants dans la lignée d'Isaac. C'était quelque part un signe de l'alliance qu'Abraham faisait avec Dieu, un signe tout simplement. L'enfant devait être circoncis à l'âge de 8 ans. Après, si vous vouliez faire partie de la communauté des Juifs, même si vous n'avez pas 8 ans, quel que soit votre âge, vous deviez vous faire circoncire pour faire partie du peuple juif et avoir cette alliance avec Dieu. Mais ça, c'était sous une autre époque. Et Paul dit maintenant les vrais circoncis. Alors la circoncision pour un Juif, c'était une marque extérieure. Et pour lui, ça voulait dire « j'appartiens à Dieu » quelque part. Donc quand il dit « nous, les chrétiens, nous sommes des circoncis », les Juifs, ils devaient se dire, ouh, qu'est-ce qu'ils racontent là, quelque part. Autrefois, parce qu'autrefois, même pour ces Juifs, il leur expliquait d'une certaine manière, c'est, si vous étiez circoncis, vous deviez quand même avoir une attitude de fidélité qui devait y correspondre, parce que dans Deutéronome 10, 16, il est dit, vous circoncirez dans votre cœur, donc votre cœur, pardon, et vous ne raidirez plus votre cou. Alors, il voulait bien être circoncis, faire partie du peuple de Dieu, de cette alliance, mais il faisait n'importe quoi. Alors que Dieu voulait qu'on lui obéisse aussi. Il dit encore dans Jérémie 4:4, « Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. » C'est une chose de se dire « je suis un circoncis, un juif fidèle, etc. » Mais si je désobéis à Dieu, ça n'a aucune valeur quelque part. Hein. Faites alliance avec Dieu, ce qu'il attend, c'est qu'on agisse comme lui, qu'on lui obéisse, qu'on lui ressemble tout simplement. La circoncision démontre l'appartenance à Dieu. Et donc quand Paul dit que c'est nous les vrais circoncis, quelque part, il dit que nous, en tant que chrétiens, nous appartenons réellement à Dieu. Et donc nous sommes conduits dans nos actions à obéir à Dieu et à faire ce qui lui plaît. Paul dit que les chrétiens sont les vrais circoncis, c'est-à-dire qu'ils rendent un culte par l'Esprit. On ne vient pas ici avec notre religiosité, mais c'est parce que le Saint-Esprit nous aide aussi à adorer, à célébrer le Seigneur. En Galates 6,15, il est dit « Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. » On s'en fiche de ça. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Ça change tout. Être religieux, c'est une chose, mais être né de nouveau, ça change toute la vie. Parce que regardez les religieux, ils ne sont pas très heureux. Hein. Et puis, ils continuent à vivre souvent leur vie passée. Mais quelqu'un qui est né de nouveau, il y a un passé, comme l'a dit Paul, et il y a quelque chose d'absolument nouveau. Et quand c'est nouveau, c'est heureux. Ça change de ce qu'on vivait autrefois, normalement. Oui, ça change quand même. Vous préférez votre vie passée ou votre vie avec le Seigneur? Vous hésitez? Non, c'est mieux avec le Seigneur, évidemment. Et le vrai chrétien, le vrai circoncis, se glorifie en Jésus-Christ uniquement, pas dans ce qu'il fait, pas dans la loi, pas dans sa chair, mais uniquement en Jésus-Christ, dans tout ce qu'il a accompli pour chacun d'entre nous. Le chrétien ne se confie pas dans la chair, dans cette religion légaliste, mais seulement en Christ, uniquement en lui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faux docteurs qui trompent. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez l'évangile de prospérité, j'en parle souvent, mais faites attention parce que c'est très séduisant. Vous devenez chrétien et Dieu va vous bénir. Bénir. Vous aurez une nouvelle voiture, vous aurez une belle maison, vous aurez un beau travail, des jolis enfants qui vont tous obéir. Ça ne marche pas comme ça. Hein. Par l'expérience, je pense que vous pouvez me dire que ce n'est pas comme ça. Et puis la vie chrétienne, surtout quand on voit l'apôtre Paul, excusez-moi, mais ce n'était pas très cool sa vie quand même. Hein. Il était persécuté, il était lapidé, il était en prison, il était dans les naufrages. Ouais, Dieu le bénit, hein, quelque part. Non, la vie chrétienne, il faut en être conscient, ce n'est pas le pays de Haïti. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne nous bénit pas dans la difficulté ou dans les problèmes. Mais ne croyez pas que vous allez devenir riche parce que vous êtes chrétien. Dieu le permet pour certains, mais parce qu'il veut les utiliser ensuite pour l'Église. Mais tout le monde ne sera pas riche. Mais on est riche en Christ. C'est vrai que quand on regarde notre compte bancaire, des fois on se dit « je suis riche en Christ ». Bon, ouais. Oui, Seigneur, tu sais, hein. Mais Dieu sait et fait des miracles des fois. Mais ça dépend si moi je veux continuer avec mes forces ou alors si je laisse vraiment tout entre les mains de Dieu. Et Dieu répond. Dieu répond. Paul, lui, dit qu'il met sa confiance uniquement en Christ, et il veut dire là, en fait, à ses circoncis, pas en lui-même, hein, parce qu'il aurait pu mettre sa confiance en lui-même par le fait qu'il était un grand religieux. Maintenant, il a lâché tout ça, il fait uniquement confiance en Jésus-Christ. Il a un nouveau regard, il a une façon de vivre complètement différente depuis qu'il a rencontré Christ, hein. Il avoue que tout ce qu'il avait autrefois, qui pourrait paraître un gain, super religieux, super bien connu, etc., l'orgueil, ben tout ça, ça n'a aucune valeur pour lui maintenant. Il sait que les œuvres ne sauvent pas et que c'est seulement la grâce de Christ qui sauve réellement le pécheur. Et donc forcément, il dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, Paul se souvient qu'autrefois, il obéissait à la loi. Il essaie de suivre les commandements à la lettre. Aujourd'hui, il dit, j'ai une relation avec Dieu. C'est autre chose. Hein, que de dire « je fais des choses pour les faire », que d'avoir une relation avec quelqu'un. C'est quand même plus sympa, non? Quand on dit à nos enfants « faites », nos enfants, à un moment, ils en ont marre. Mais si on arrive à avoir une relation avec eux, le « fait » va devenir plus facile pour eux. Et donc, la grande différence entre la religion et la nouvelle naissance, c'est justement qu'aujourd'hui, je peux avoir une relation avec Dieu. Et une relation, ça veut dire n'importe quel moment de ma journée, je peux toquer à la porte du ciel, d'une certaine manière, et dire tous mes problèmes, ou ma joie aussi, hein, parce que souvent on dit plus nos problèmes que nos joies, hélas. Mais bon, le Seigneur veut cette relation intime avec chacun d'entre nous. Et ça a bouleversé l'apôtre Paul. Hein. Lui qui a obéi à la loi tout le temps, j'imagine que quand il a compris qu'il devait avoir une relation avec Dieu, ça a dû lui faire un bug dans... Il a dû reformater le disque dur, à mon avis, à un moment. Pendant les 3 jours, il était aveugle, mais Dieu lui a parlé certainement et lui a fait comprendre beaucoup de choses. Et parce qu'il a maintenant compris la différence, eh bien, il a décidé de tout quitter pour Jésus-Christ. Quand même fou, hein ? Il vivait, on pourrait dire, un peu adulé à cause de sa loi, etc. Il était fier. Il a tout lâché pour suivre Jésus-Christ. Tout. Il a renoncé à tout. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, est-ce que nous avons renoncé à tout aussi ? Alors, on n'est pas des apôtres, hein, loin de là, à mon avis. Et de toute façon, il n'y en a plus aujourd'hui. Mais à notre niveau, là où Dieu nous a placés, est-ce qu'on a vraiment renoncé à tout ? On s'accroche au passé, on s'accroche à peut-être une religiosité, au matériel, à un tas de choses. Est-ce qu'on a renoncé à tout pour le Seigneur ? Est-ce qu'il y a vraiment ce passé et maintenant cette joie d'avoir la relation avec Dieu, et de le suivre, de courir avec lui cette fameuse course ? Connaître Christ, nous dit Paul, change toute la vie de l'homme et de la femme aussi, évidemment. Ça change ma vie. Et aujourd'hui, je sais que je ne suis pas en train de courir une mauvaise course, mais je sais que je cours une bonne course. Je cours dans le bon sens. Ça, c'est pas mal déjà. Je ne vais pas perdre mon temps. Et Paul va parler justement de cette course. Parce que pour lui, il ne courait pas pour courir bêtement, mais il avait un but et une espérance. Et il en parle là énormément. Il court avec une espérance. Et j'espère que nous aussi. Il dit courir afin de gagner Christ. Alors, ça ne veut pas dire qu'il doit courir pour être sauvé. Il a déjà dit il est sauvé. Ce n'est pas ça l'idée. Mais Paul refuse la justification par la loi, c'est-à-dire ce que les Juifs étaient en train de prétendre. Et lui, il milite plutôt pour la justification par la foi. Il faut accepter Christ dans sa vie. Seule la justification permet de connaître Christ. Et donc, si je connais Christ de cette manière-là, je vais aussi connaître le salut et connaître la résurrection. C'est ce qu'il est en train de dire à ce moment-là. Il court afin de connaître Christ. Il dit au verset 10, pour connaître la puissance de sa résurrection. Il sait que Jésus-Christ est ressuscité, et ça, c'est la puissance de Dieu qui a pu le faire. Et lui, il veut connaître la même chose. Il sait qu'il va connaître cela. Vous êtes déjà posé lundi matin la question, tiens, un jour, je vais ressusciter. Ça vous parle dans votre cœur ou bon, pensez plus à votre patron. Il faut y penser à ces choses-là. Et lui, il y pensait. C'est pour ça qu'il courait, parce qu'il avait ça en tête, et c'est ça qui le motivait. Il savait qu'un jour, il va, parce que Dieu est puissant, il va ressusciter comme Christ est ressuscité. Moi, j'attends que ça, parce que je sais que Jésus traversait les murs, et j'ai envie d'essayer aussi. Ça va être extraordinaire d'être ressuscité. Il dit aussi qu'il veut participer à la communion de ses souffrances en Christ. Alors là, on est déjà un peu moins... C'est-à-dire qu'il est prêt à souffrir avec Jésus-Christ. Quelqu'un a écrit en parlant de la souffrance, « Faire confiance à Dieu au sein de notre souffrance et de notre chagrin signifie que nous acceptons cela de lui. » Quand on est dans l'épreuve, on dit « Tiens, oui, j'accepte Seigneur, j'accepte de souffrir. » Accepter vraiment notre souffrance et notre chagrin prouve notre bonne volonté. Alors, ça ne veut pas dire que dans l'épreuve, on sera tout joyeux, mais on peut avoir la bonne volonté de se dire « Ok, j'accepte cela parce que je sais avec qui je vais marcher. » Et continue, une attitude d'acceptation démontre que nous faisons confiance à Dieu, que nous croyons qu'il nous aime et qu'il sait ce qui est bon pour nous. Dans l'épreuve, je peux me dire, j'ai peur, je panique et je n'ai pas confiance en Dieu finalement. Mais par contre, si je m'arrête un petit peu, que mes petits sentiments se calment, parce qu'on est comme ça, et que je me dis, tiens, ce n'est pas la première fois que ça m'arrive dans ma vie, et la dernière fois, Dieu m'a aidé et il m'a sorti de mon problème, donc on va s'arrêter de hurler et on va faire confiance à Dieu. Alors c'est facile à dire, je le sais, mais c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Et lui, il va plus loin, il dit, il est prêt à souffrir avec Christ. Et quand on connaît l'apôtre Paul, il a accepté un tas de choses que je ne sais pas si on est prêt à l'accepter non plus. Est-ce qu'on est prêt à souffrir avec Christ ? S'il y avait une persécution qui arrivait en France, est-ce qu'on est prêt à se dire, tiens, le dimanche matin, il y a peut-être des gens qui nous attendent avec 2-3 mitraillettes là et qui ne voudront pas qu'on aille à l'église. Est-ce qu'on est prêt à souffrir avec Christ ? Il y a des chrétiens qui le vivent tous les jours, ça. Ils sont prêts à souffrir pour Christ. Ils sont prêts à faire des kilomètres pour aller à l'église et pour servir le Seigneur avec beaucoup de foi. Où est-ce qu'on en est, nous, vraiment ? On est tellement bien en France. On est bien douillé là, bien au chaud. Mais des fois, il faut prendre conscience de cela aussi. Est-ce que je suis prêt à souffrir avec Christ ? On n'est pas obligé de souffrir ce que l'apôtre Paul a souffert. Mais nos petites souffrances, des fois, c'est de sortir du lit le dimanche matin pour aller à l'église. Ou le vendredi, ou je ne sais pas. C'est dur de sortir de son lit. Moi, j'avais du mal ce matin. Je me suis fouetté. Mais c'est vrai, j'avais du mal. C'est vrai, je ne mens pas. Et bien, d'être au chaud. Et il dit aussi être conforme en lui dans sa mort. Alors, évidemment, c'est l'apôtre qui parle, mais Paul n'avait pas peur, là, quelque part, de subir le martyre. Lui, on l'avait vu au début, il se posait la question, est-ce qu'il allait mourir en prison ou est-ce qu'il allait être martyr? Mais il n'a pas peur de ça, parce qu'il veut faire comme Christ, parce qu'il veut suivre Christ jusqu'au bout. Alors, tout le monde n'est pas appelé à devenir martyr, ça, heureusement. Maintenant, lui, il le deviendra, puisqu'il il sera mis à mort à Rome, mais la deuxième fois qu'il sera emprisonné. Mais il était prêt à aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Il faut aussi se poser la question, jusqu'où je veux aller avec Jésus-Christ? Lui, il est mort sur une croix pour moi. Il est mort pour moi, pour que je puisse être sauvé. Où est-ce que moi, je vais aller? Jusqu'à quel point je suis prêt à suivre le Seigneur dans ma petite vie de chrétien, souvent? Que je suis prêt à aller plus loin un peu aujourd'hui? Est-ce que je suis prêt à suivre le Seigneur vraiment là où il m'emmène? Puis il parle de courir pour parvenir à la résurrection d'entre les morts. Le mot résurrection, ce n'est pas le même qu'on a d'habitude. C'est plutôt quelque chose, une montée, une relevée. Hein, c'est monter quelque part. Mais il dit, si je le puis. Alors, ce n'est pas un doute qu'il est en train d'exprimer là dans le grec. Hein, c'est plutôt un désir plutôt intense qu'il avait de ressusciter. En fait, tous les matins, l'apôtre Paul, à mon avis, il se levait en se disant, un jour, je vais être avec Jésus-Christ. Et ça le motivait pour la journée. Et il était prêt à se faire lapider, à souffrir, etc. Si je pense à mon patron tous les matins, ça ne va pas trop me motiver, en fait. Hein. De toute façon, vous allez le voir, que vous pensez ou pas. Si vous pensez à la difficulté de votre journée, prenez le temps de penser d'abord à toutes ces richesses célestes, d'abord. Et après, vous allez voir que le reste devient un peu plus facile. Mais lui, il savait un jour qu'il allait ressusciter. Il se sait sauvé. Mais la question qui se pose, là, justement, c'est savoir comment il va rejoindre le Seigneur. C'est déjà posé la question de votre dernier jour. Moi, j'écris de temps en temps au ciel en disant m'endormir et puis partir, c'est le mieux que de souffrir sur un lit d'hôpital ou je ne sais pas quoi. Bon, après, on verra bien ce qui se passera. Hein. On sera vite au courant un jour, hein, je vous rassure. Mais voilà. Mais Paul se posait la question, mais comment je vais rejoindre le Seigneur? Peut-être certainement par le martyr, il devait penser à ça. Ou peut-être qu'il pensait aussi à l'enlèvement de l'Église, puisque la Bible dit qu'un jour, le Seigneur va, au bruit d'une trompette, hein, il va appeler son Église d'un seul coup et paf! Pouf, toute l'église s'en va, tous ceux qui sont nés de nouveau. Ça va faire bizarre, hein, surtout si vous êtes en voiture, si vous conduisez un car, si vous êtes au travail, le patron, il ne va pas être content. Hein. Mais d'un seul coup, tout le monde ira rejoindre le Seigneur. Et évidemment, lui, il aimerait vivre ça. Seulement, c'était il y a 2000 ans, mais ça ne s'est pas passé. Et des fois, il est un peu déçu, mais bon, c'est peut-être pour nous. Hein. Je ne sais pas si on le mérite quelque part, mais on peut aussi penser à ça. C'est surtout penser que si le Seigneur venait nous prendre demain et qu'on est en pleine colère contre son mari, hein, que je la haine contre lui, et que Jésus nous prend, on me retrouve d'un coup devant lui avec tout ça. On ne va pas être fiers. Hein. Bon, de toute façon, on ne sera pas très fiers, je pense, devant le Seigneur, parce qu'on est loin d'être parfait, mais quand même, être prêt à partir, ça me permet aussi de vivre autrement et de ne pas faire n'importe quoi. Mais Paul sait qu'il faut encore attendre avant de goûter à cette gloire à venir. Pour lui, il était pressé, il savait ce qui l'attendait, et c'était réel dans son cœur. Bien souvent, nous, en tant que chrétiens, on sait qu'un jour on va être dans le ciel, un jour on va ressusciter, un jour on va connaître la gloire, mais ça n'a aucune valeur dans notre cœur, c'est bien dommage. Hein. Si on prend le temps vraiment de réfléchir à toute cette richesse, ça égaye le cœur. Et ça donne vraiment de l'espérance. Et Paul pouvait faire n'importe quoi, accepter n'importe quoi, parce que c'était vrai dans son cœur. Ce n'est pas quelque chose de flou là-bas. C'était quelque chose de réel. Et lui, il court avec un but, les versets 12 à 13. Il n'a pas encore remporté le prix et atteint la perfection. Littéralement, il dit, non que j'ai déjà atteint ou que je sois parvenu au but. Le but, c'est de remporter le prix. Pour lui, quelque part, il sait qu'il court, il court, mais il n'a pas encore gagné ce prix. Quelque part, il nous dit qu'il n'est pas encore arrivé à destination, c'est-à-dire au ciel. Et il court, malgré tout cela. Il n'a pas encore atteint la perfection. Mais Paul était quand même quelqu'un d'extraordinaire, hein, mais il dit qu'il est loin d'être parfait encore. Et il le reconnaît, parce que dans son idée, je pense comme nous, il voulait devenir de plus en plus parfait pour faire plaisir à Dieu. Et devenir parfait, c'est vivre cette sanctification finale. Une fois qu'on sera auprès du Seigneur, pouf, on sera transformé. Ce qu'on avait comme nature pécheresse va disparaître, on ne commettra plus jamais de péché. Vous avez déjà imaginé ne plus jamais commettre de péché? Plus de mauvaises pensées, plus de colère, plus de je ne sais pas quoi, plus d'orgueil. Parfait. Ça fait un peu bizarre quand on y réfléchit, hein, parce que là on en est absolument loin de tout cela. Mais lui, il savait qu'un jour il vivra ça, et c'est pour ça que ça le motive. Hein. Il veut le vivre. Est-ce qu'on a envie d'être au ciel aujourd'hui? Si Dieu vous le proposait tout à l'heure, de vous emmener, vous êtes prêts? Ouais? Ça va, c'est bien. Faites attention, peut-être qu'il va vous écouter. Hein. Mais on devrait avoir le désir. Alors évidemment, il y a nos enfants, il y a un tas de choses. Et le Seigneur est plein de grâce avec cela. Il nous laisse le temps de faire certaines choses. Mais Paul avait vraiment cette idée de rejoindre le Seigneur. Il courait pour cela. Il dit pour tâcher de le saisir. Il connaît son imperfection, mais il veut être meilleur. Et pour lui, en attendant d'arriver à cette ligne d'arrivée, il faisait le maximum dans sa vie pour devenir correct, plaire à Dieu. Il dit, puisqu'il a été saisi hein, en Christ, il se souvient certainement tous les jours qu'à un moment, quand il était parti pour aller persécuter les chrétiens et les tuer, à un moment, Christ l'a arrêté sur le chemin de Damas, et ça a changé complètement sa vie. Christ l'a saisi, et parce que Christ l'a saisi, maintenant, il veut devenir un modèle aussi, un modèle qu'on veut suivre, tout simplement. Alors, il n'est pas parfait, hein. Le vrai modèle, c'est Jésus-Christ, mais on peut avoir des fois des référents chrétiens à qui on veut ressembler. Bon, ne les mettez pas trop sur un piédestal, hein, parce que des fois, moi, je l'ai fait, et quand je me suis rendu compte qu'ils étaient réellement, j'étais un peu déçu. Mais bon, il faut quand même devenir des modèles. Il dit, il ne pense pas avoir saisi le but, mais en attendant de saisir ce but, ce qu'il veut faire, c'est le mieux possible dans sa vie. Être plus fidèle, être plus obéissant, vivre cette vie de sanctification, de prière, de lecture de la parole, de service, d'amour pour le prochain. Il veut faire le maximum avant d'aller au ciel. C'est pas ça qui va le sauver. Mais on se souvient qu'on va se retrouver devant le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, c'est pas un endroit où on va parler du salut. C'est un endroit où on va parler de ce qu'on a fait de bien et de mal dans notre vie de chrétien. On sera évalué quelque part. Et si je suis un chrétien qui, ouais, voilà, j'ai vécu ma vie tranquille, ben, il y aura pas beaucoup de récompenses. Par contre, si j'ai vraiment servi le Seigneur de tout mon cœur, comme l'apôtre Paul, à mon avis, il y aura une belle récompense. On peut se dire, bon, on est dans l'éternité, on est parfait, on a la gloire, on s'en fiche des récompenses. Si la Bible en parle, c'est qu'il y a certainement quelque chose. Et donc, il ne faut pas se dire que c'est pas grave si j'ai une petite récompense. Je préfère avoir le mieux. Vous savez, ce n'est pas une histoire de gagner une récompense, ou une grande ou une petite. C'est une histoire de savoir si on a compris la valeur de la croix. C'est ça, la vraie question. Et à qui aime peu, c'est parce qu'on lui pardonne peu. Si je suis devant la croix et que je dis, ouais, ben, Jésus, il avait intérêt à être sur cette croix, à mourir pour moi parce que j'étais pécheur, ben, ça n'a aucune valeur. Et je n'ai pas compris combien j'ai été pardonné. Mais si j'ai vraiment compris le pardon de Jésus-Christ, alors là, j'ai envie d'avoir cette récompense. Pas pour moi, hein, parce que dans l'Apocalypse, on voit que tous les anciens, les 24 vieillards, là, vont jeter leur couronne, leur récompense devant le trône de Christ. Mais c'est simplement pour faire plaisir à Jésus-Christ que de gagner une belle récompense. Il dit en attendant de le saisir, en attendant d'arriver à cette ligne d'arrivée, il ne regarde pas en arrière. Il pourrait passer toute la journée à se culpabiliser en disant « j'ai tué des chrétiens, j'ai lapidé un certain Étienne, enfin du moins j'étais là ». Il pourrait passer toute sa journée, hein, et beaucoup de chrétiens vivent comme cela sur la culpabilité. Mais est-ce que Christ peut vraiment me pardonner? Est-ce qu'il peut vraiment accepter mon passé et effacer tout cela? Ben oui. Il l'a fait avec Paul, et Paul, il dit, il ne regarde pas en arrière. Et s'il regarde en arrière, il pourrait rougir, quelque part. Mais il ne regarde pas en arrière. Il ne regarde pas non plus les privilèges qu'il avait en tant que juif. Tout ça, c'est de la boue pour lui. Mais se porte vers ce qui est en avant. Le mot grec dit, c'est se tendre de toutes ses forces vers devant. Hein? On peut passer sa vie à regarder en arrière. Et ce n'est pas ça que le Seigneur veut. Ou alors, ça veut dire que vous n'avez pas compris que vous êtes pardonné réellement. Mais il veut qu'on regarde en avant. Il y a du travail. Et y tendre de toutes nos forces, et courir vers l'avant. Et Paul fait justement tous les efforts à cause de ses privilèges maintenant, mais pas des privilèges de juif qu'il était autrefois, mais des privilèges qu'il a en Jésus-Christ. Et on en a un tas des privilèges. Et en même temps, il sait qu'il est apôtre et qu'il a une responsabilité. Et pour lui, quelque part, il nous dit aujourd'hui, allez vers l'avant, arrêtez de regarder en arrière. Sauf si vous n'avez pas demandé pardon. Là, oui, effectivement. Mais le diable veut souvent nous faire culpabiliser sur ce qu'on a fait autrefois. Ça me bloque dans ma vie chrétienne. Si vous avez demandé pardon à Jésus-Christ, même si vous avez tué, puisqu'il l'a fait, eh bien, c'est pardonné. C'est pardonné. Il y a certainement des conséquences qu'on a fait ce genre d'acte, mais le Seigneur nous a pardonné. Donc, on regarde devant, pas derrière. Courir aussi avec une motivation. Il court vers le but. Le but que, alors, le mot veut dire but que quelqu'un a en vue du terme d'une course. Il courait, mais il courait parce qu'il savait qu'à un moment, ça s'arrête. Parce que s'il fallait commencer à courir au jogging sans savoir quand vous vous arrêtez, personne ne le fera. Mais on est des fois motivé parce qu'on se dit on va faire que 10 minutes de jogging. Donc on sait qu'il y a une ligne d'arrivée. Mais c'est pareil dans la vie chrétienne. S'il fallait courir pour l'éternité, on serait vite fatigué. Mais lui, il courait parce qu'il savait à un moment, il y a cette fameuse ligne d'arrivée, d'arriver au ciel, tout simplement. Et il court. Il court dans ce sens-là. Il est un peu un sportif, hein, il se compare à un sportif qui a un but, mais il savait que ce but, c'était la fin de sa vie, et de se retrouver devant le tribunal de Christ, d'être évalué, et ensuite de rentrer dans la gloire. Il ne courait pas un peu n'importe comment, comme beaucoup aujourd'hui courent. Et il dit, il court pour remporter le prix de la vocation céleste. Ce n'est pas le prix de ses exploits qu'il va recevoir, mais c'est plutôt le prix de l'appel céleste. En fait, il rend la gloire à Christ. C'est Christ qui l'a appelé à un moment et qui nous a appelés. Hein, parce que nous avons une vocation. La vocation, c'est l'appel, tout simplement, de Jésus-Christ. À un moment dans notre vie, Christ nous a appelés et nous sommes sauvés. Et ce prix, on le connaîtra d'une certaine manière au travers du salut. Hein, un jour, j'aurai ce prix. C'est mon salut, mais dans toute sa splendeur, on va dire. Aujourd'hui, je sais que je suis sauvé, mais je n'ai pas encore vu ce qu'est vraiment le salut. Mais j'y crois, surtout. Et il pensait certainement à la couronne de justice. Il y a plusieurs couronnes dans le Nouveau Testament, mais il pensait tout simplement, le prix, c'est la vie éternelle, de partager l'éternité. Vous imaginez Paul, quand il est arrivé devant Jésus-Christ, à mon avis, après tout ce qu'il a vécu, et à dire, enfin, la paix, tranquille, plus personne pour m'embêter, pour me persécuter, et tous ces chrétiens qui sont pénibles dans les églises et tout ça, je suis maintenant tranquille avec le Seigneur. Il devait être content, à mon avis. Hein. Et puis le Seigneur a dû vraiment, à mon avis, le féliciter pour le travail qu'il a fait. Pour lui, c'est la concrétisation du salut. Il sait qu'à un moment, la ligne d'arrivée, c'est la résurrection, comme il a dit, c'est la glorification, c'est la perfection en Jésus-Christ. Et ce n'est pas que valable pour lui, c'est valable pour nous qui sommes nés de nouveau aussi. Et ça, si je me souviens du début, réjouissez-vous. On ne se réjouit pas pour le repas de tout à l'heure, même si ça va être succulent, on imagine. Mais on se réjouit parce qu'un jour, on va vivre toutes ces choses-là. Et ça doit vraiment nous rendre heureux. La course du chrétien est motivée par l'espérance d'être bientôt avec Jésus-Christ. Vous êtes motivé ce matin ? Vous courez ? On va faire un petit jogging tout à l'heure dans le froid. Là. Hein ? Non, ce n'est pas la même chose. Mais ça doit nous motiver. Alors pour terminer, quel genre de course vous courez ? Est-ce que vous êtes religieux ? Posez-vous la question sérieusement quand même. Je ne vous connais pas tous dans votre cœur. Est-ce que vous êtes des fois légaliste ? Regardez les chrétiens en leur demandant de faire des choses que la Bible n'a jamais demandé de faire. C'est peut-être parce que vous ne connaissez pas la Bible, tout simplement. Est-ce que vous êtes sauvé ? Ça, c'est aussi une grande question qu'on peut se poser. Est-ce que je suis sauvé ? Et si nous sommes chrétiens, comme il le dit, courons avec cette espérance de franchir l'arrivée, de rencontrer Christ. Ne courons pas durant la semaine pour mon patron, pour certaines choses qui finalement n'ont pas de valeur. Ah, il faut le faire, je sais, mais ayons quelque part dans un coin de la tête cette motivation un jour de rejoindre le Seigneur. Que notre espérance nous donne la force d'avancer et de nous améliorer aussi. Parce que si je sais que je vais rejoindre Christ, eh ben j'ai envie de changer, j'ai envie de devenir meilleur, de m'améliorer selon les possibilités. Mais il y a quand même cette idée d'effort et de le faire. Hein. En attendant, réjouissons-nous car nous courons sur la bonne course. Nous courons la bonne course en Jésus-Christ. Le Seigneur ne nous trompe pas. C'est ça qui est formidable. Et donc on avance, on marche et on sait où on va. Nous courons vers la gloire. Nous ne courons pas vers notre cuisine tout à l'heure. Nous ne courons pas vers notre patron ou je ne sais pas quoi. Nous courons vers la gloire. Je ne sais pas si ça rentre dans la tête. Hein. Vers la gloire et vers l'éternité, vers la joie de rencontrer un jour Jésus-Christ. Vous avez déjà imaginé votre rencontre avec Jésus-Christ face à face ? Eh bien, je vous laisse imaginer. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole et merci tout particulièrement pour l'apôtre Paul qui fait cette grande distinction entre une vie religieuse et cette relation que l'on peut avoir avec Jésus-Christ. Lui-même regarde tout cela comme de la boue, ce qu'il vivait autrefois en tant que juif. Il regarde ça comme une grande perte. Par contre, il est pleinement motivé par cette relation qu'il a avec toi, Seigneur. Et merci pour cette motivation de cet homme qui a tellement souffert, qui se réjouit malgré qu'il soit en prison. Nous puissions avoir la même motivation, la même joie. Surtout, apprends-nous à regarder vers cette gloire, vers cette ligne d'arrivée que, de toute façon, nous allons vivre un jour. Que cela nous motive, Seigneur, nous réjouisse aussi dans notre vie de chrétien. Et parce qu'on est motivé, réjoui, apprends-nous aussi à changer, à nous améliorer, à te faire tout simplement plaisir, Seigneur. Nous voulons te remercier aussi pour cette ligne d'arrivée, la vie éternelle. Tu n'étais pas obligé de nous l'offrir, Seigneur, mais tu t'es plu à mourir sur une croix pour cela. Et tu vas partager ton héritage avec chacun d'entre nous. Seigneur, donne-nous l'effort de la mémoire de temps en temps pour nous remotiver, charger les batteries, de savoir qu'un jour nous allons vivre toutes ces choses-là. Nous allons prier pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, que ce soit peut-être ici dans cette assemblée ou autour de nous, dans nos familles, que nous puissions briller durant ces périodes de Noël aussi et rappeler le sens de Noël, rappeler le sens de ta venue aussi et du sacrifice que tu as fait pour chacun d'entre nous. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, en Jésus-Christ. Amen. Amen.